Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Elle n'est pas contente, Pascale Clark. La voix d'Inter, désormais aux manettes de live tous les soirs entre 21h et 23h, ne s'est pas vue renouveler sa carte de presse, le numéro 53216. Deux raisons invoquées par la commission qui délivre le Graal. Raison numéro 1, Pascale Clark est productrice de son émission soumise au régime de l'intermittence. Elle est donc ce qu'on appelle une permittente, embauchée à long terme dans un organisme audiovisuel, un régime qu'elle n'a pas choisi, comme beaucoup dans son cas. Numéro 2, selon la commission, E-Live ne présenterait pas le caractère d'émission d'information. Bizarre pour une émission émaillée de chroniques, de reportages, d'analyses et d'interviews, et arguments évidemment plus que discutables. Alors hier soir, Pascale Clark a boudé, elle a annulé son émission et passé quelques disques. Et ce matin, comme pour faire trembler la planète médiatique, Patrick Cohen a découpé sa propre carte de presse « Face micro ». Un geste visuel à la radio, quoi. Bien sûr, on peut comprendre la déception, l'incompréhension face à une décision si contestable, mais ce genre d'attitude corporatiste ne fait-il pas passer une nouvelle fois les journalistes assis pour une caste bourrée d'ego? Rappelez-moi, quelle est la profession la plus détestée des Français, après politiciens, publicitaires et agents d'assurance? Je crois que vous avez la réponse.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez l'assaut Culture Art qui organise son événement La Nuit des Sens, mercredi 18 mars, dans 8 jours donc. Ce sera juste après la chronique Vigie de Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et les propos politiques. Ce soir, il s'attaque à Marion Maréchal Le Pen. Mais d'abord, comme chaque mois, nous recevons Angers Mag pour décrypter l'actualité. Quels enjeux pour les élections départementales qui approchent? Comment se structure l'islam à Angers? Que nous concocte le Shabada? Et comment vont les femmes du cru?
Mesdames et mesdames, j'aime bien.
Wow, singing, I ain't got time to waste. I ain't got no more clothes, back to bounce with us.
Ce sujet des femmes en politique, comme beaucoup d'entre vous, je le sais, est un sujet qui nous tient très à cœur.
Bonjour Yves Boiteau.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef d'Angers Mag. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour décrypter l'actualité. On vient d'entendre le groupe angevin Cherry Plum mixé avec Stella Dupont, maire de Chalonne-sur-Loire et conseiller général de Maine-et-Loire. Cette voix était extraite d'un webdoc réalisé par le programme Jedi qui traite du genre et des discriminations sexistes et homophobes qu'on a déjà reçues ici dans le sous-marin. Alors Yves Boiteau, dimanche, c'était la journée de la femme. Et votre tribune du lundi d'hier est donnée à Christine Barre, professeure des universités, qu'on a aussi reçue ici pour nous parler de la jupe la semaine dernière. Est-ce que c'est un sujet qui reste sensible, cette discrimination en politique homme-femme, dont on a, qu'on a pu illustrer en début d'émission avec cet extrait de Stella Dupont, et qui est traité dans cette tribune de Christine Barre? Est-ce que c'est un sujet qui reste ultra sensible, ultra présent, cette discrimination homme-femme?
Je pense qu'il est moins sensible qu'il y a quelques années, quand même. Il est présent dans le débat public. En revanche, il y a nécessité de le remettre sur la table des discussions en permanence, parce que rien n'est acquis pour les femmes en politique, et tout est manifestement encore plus compliqué pour elles. Donc elles sont plus nombreuses. Les lois, et notamment électorales, on va le voir pour les prochaines départementales, font qu'on essaye d'appliquer un principe de parité. Ça sera le cas pour les départementales. Donc, c'est-à-dire que la loi s'adapte aussi à cette recherche de parité en politique. Maintenant, la loi, c'est la loi, et la réalité et la pratique, c'est autre chose. Donc, je pense que ce débat-là, il est moins sensible, mais que ça reste quelque chose à conquérir, à gagner pour les femmes.
D'ailleurs, dans le numéro du mois de mars que vous avez, qu'on peut lire depuis vendredi dernier, vous avez rencontré Corinne Bouchoux, qui est sénatrice écologiste de Maine-et-Loire. C'est une personnalité qu'on voit, qu'on entend beaucoup. Et à la question « Être une femme au Sénat, est-ce que c'est compliqué ?» Elle répond « On a peut-être intériorisé une espèce de modestie féminine. » C'est quand même hallucinant.
Ouais. Elle le dit en particulier par rapport à la question de l'écho médiatique que peuvent recevoir les propositions de loi ou les travaux parlementaires qu'elle mène, elle et ses collègues femmes, qui, auprès des médias, et là c'est notre responsabilité à nous qui est en cause, ne semblent pas recueillir aussi facilement d'écho que lorsqu'elles sont proposées par des hommes, figures médiatiques, bien connues, habituées des médias. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Derrière ça, c'est une certaine difficulté à jouer le jeu médiatique aussi. Corinne Bouchoux, c'est, même si je pense qu'elle est plus visible que Catherine Deroche, l'autre sénatrice femme de Maine-et-Loire, elle, UMP, je pense que Corinne Bouchoux, on la voit plus, mais pour autant, ça signifie que oui, c'est pas facile d'être... alors qui plus est, le Sénat est moins médiatisé quand même que l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il n'y a pas de députée femme en Maine-et-Loire. Donc pour une sénatrice, c'est déjà plus compliqué d'être visible, et quand on est une femme, ça l'est également. Je pense que c'est ça ce qu'elle a voulu dire.
Christine Barre, donc, qui a publié cette tribune hier sur votre site, ouais, Angers Maginfo, écrit: la politique, ce n'est pas seulement se montrer entre hommes pour parler grands travaux et gros projets à des hommes journalistes. Ouais. Angers Mag, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Non.
Est-ce que ça vous a mis la puce à l'oreille? Vous êtes remis un peu en question, ou c'est une question qui est cosmétique?
Non, pas du tout. Cette question-là, on se la pose depuis le début de l'aventure, avec un argument imparable pour nous défendre, c'est que le projet a été lancé par des hommes, et que ce sont encore ces hommes-là qui sont là, et qu'Angers Mag, c'est pas 15, 20 ou 30 journalistes, c'est une rédaction de deux personnes. Donc moi, j'accueille relativement bien ces reproches, je les entends, on serait les premiers partisans si on en avait les moyens à féminiser la rédaction. C'est pas le cas. Donc maintenant, elle a raison quand même. C'est-à-dire que, et c'est vrai au niveau du microcosme médiatique local, qu'il est dominé, les hommes sont beaucoup plus présents. C'est vrai aussi pour les responsables politiques. Donc on a souvent affaire, effectivement, à un dialogue entre hommes et femmes. J'ai participé à des débats organisés sur Angers Télé, par exemple, pour prendre cet exemple-là, où les trois journalistes sur le plateau, donc Fabrice Gadon d'Angers Télé, Yves Trécadurant du Courrier de l'Ouest ou moi, on est trois mecs. Face souvent à des hommes politiques, même si on a reçu Corinne Bouchoux lors de l'une des dernières émissions. Donc oui, il y a une réalité aussi dans le monde médiatique, mais qui est en train quand même un petit peu de changer. Enfin, je pense que là, j'ai pas les chiffres avec moi, mais la proportion des journalistes femmes est en train d'augmenter. Alors par contre, c'est le même problème que pour la politique. Il faudrait voir quelle est la proportion des journalistes femmes qui ont des responsabilités dans les rédactions. Voilà, là encore, on n'est pas exemplaire, je veux bien l'avouer, mais on a des circonstances atténuantes quand même.
En tout cas, dans ce numéro de mars, il y a pas mal de filles. Il y a Corinne Bouchoux, donc il y a Hélène de Certaine, donc à qui vous accordez votre carte blanche, qui est une couturière angevine.
De Bushman, exactement, oui.
Voilà, qui a créé donc un atelier de couture et de retouche.
Oui.
Et puis il y a également cette Eva Robineau, une jeune femme qui semble à peu près tout à fait pétillante. Elle se décrit elle-même comme une princesse, la trentaine, chef d'entreprise en communication digitale. Elle baigne dans le vin. Elle a créé un collectif de blogueurs qui aiment le vin. Elle a sorti le deuxième numéro de Tronche de vin, un guide d'œnologie. C'est rare de rencontrer une fille aussi dynamique, connectée dans le monde du vin, des vignerons, des œnologues.
Ouais, mais pourtant je pense que c'est pas la seule en Maine-et-Loire en plus blogueuse spécialisée vin. La qualité des femmes à l'égard de l'œnologie, elle est pas d'hier. Hein. Elle était déjà vraie dans les caves chez les vignerons où souvent, j'ai vécu encore dans le vignoble nantais, ceux qui étaient décisionnaires pour le choix, par exemple, de certaines vinifications, c'était les femmes qui vivaient avec le vigneron, qui était souvent mis en avant. Donc ça, c'est pas complètement nouveau. Maintenant, dans le marketing, maintenant la commercialisation, la connaissance des vins, elle est pas un cas isolé au niveau national. Et on a vu aussi, par exemple, des sommeliers des sommelières femmes gagner les titres ou les concours qui existent au niveau national parce qu'elles ont autant de qualité. Elles sont sans doute encore un peu moins nombreuses que des sommeliers hommes. Donc non, c'est pas un cas isolé. Par contre, elle est sur le Maine-et-Loire, donc il faut s'en réjouir. Cette blogueuse Eva Robineau, qui est effectivement, comme vous le dites, pétillante, pleine de... Moi, je trouve de bonnes analyses et de bonnes réflexions sur le vin, voilà. Et qui témoigne, elle aussi, avec ses, je sais pas quel âge a, 35 ans peut-être, qui témoigne avec son âge d'une certaine nouvelle génération aussi viticole. Et j'associe les producteurs, les consommateurs dans cette histoire-là en Maine-et-Loire, où il y a une vraie dynamique qui existe autour du vin.
On va changer de sujet avec le Chabada qui fait l'actu pour deux raisons dans ce numéro. La première, c'est la reconduction de la Drama pour Association pour le développement du rock et des autres musiques à Angers. La Drama qui gère le Chabada via ce qu'on appelle de manière très glamour une délégation de service public, une DSP, qui gère le Chabada donc depuis 1994, c'est-à-dire depuis la naissance de la salle il y a 21 ans. La même association à la tête de la salle de musique actuelle de la ville depuis 21 ans, ça pose pas question.
Ça pose question. Alors après, on peut l'interpréter de différentes manières. Si c'est la même, c'est que ça marche bien. Ou si c'est la même, c'est qu'il n'y a personne d'autre pour candidater, ce qui a été le cas. Parce qu'une délégation de service public, donc qui est cette procédure qui permet à une association, une structure, de candidater quelque part à une offre de service public portée en délégation par une structure, mais soutenue par la ville ou une collectivité, il n'y avait pas d'autres candidats pour cette délégation-là. Donc la Drama est là depuis le début, c'est grâce à elle qu'on doit le Chabada, grâce à une partie des hommes qui sont toujours là, dont François Delaunay, le co-directeur, qui s'était battu pour avoir cette salle-là. Maintenant, on n'est pas dupe que des critiques se sont faites jour ces dernières années autour de cette espèce de prédominance. Mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas vu d'autres candidats venir postuler pour cette délégation. Donc voilà, la question est posée. Peut-être qu'elle se pose pour dans 5 ans, parce que cette délégation est donc signée pour...
Jusqu'en 2020.
C'est étonnant parce que 2020, Angers Musique 2020, c'est précisément le nom d'un projet de développement de structures liées aux musiques actuelles sur Angers, qui comporte le 9 rue Claveau, le collectif d'associations, etc., avec des associations qui sont assez dynamiques, des labels, des distributeurs. Et oui, ces gens-là sont eux aussi représentatifs d'une dynamique sur la culture et les musiques actuelles sur Angers, en recherche de reconnaissance eux aussi. Alors certains ont déjà cette reconnaissance via leurs activités, mais on voit bien qu'ils sont à la recherche d'une reconnaissance aussi publique. La question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, aux collectivités, c'est comment allier les deux ? Comment faire encore mieux se concilier l'assise du Chabada, la structure, avec toutes ces aspirations associatives ou privées, ou d'entreprises privées liées aux musiques actuelles. Et là, l'enjeu, il est fort. C'est pas parce qu'on a renouvelé la délégation de service public du Chabada que cette question-là va être occultée. On voit bien d'ailleurs dans la délibération qui a été signée par le conseil municipal qu'il y a une espèce d'engagement donné au Chabada de développer cette question-là et d'être en connexion avec les associations locales. C'est ce qu'on a voulu dire, nous aussi, on l'a traité que sous forme de légende, cette chose-là, mais c'est ce qu'on a voulu dire aussi en écrivant qu'il y avait charge aujourd'hui au Chabada de trouver les bonnes connexions et de jouer ce rôle aussi moteur pour les musiques actuelles.
Vous évoquiez à l'instant 2020 Angers Musique. Il y a un autre nom compliqué qui vient de sortir, ça s'appelle Espoir Chabada Angers 2015. Il n'y a pas moyen de faire plus simple, franchement. En fait, c'est une pépinière de 12 artistes ou groupes qui vont bénéficier d'aides du genre tarifs réduits au studio Tostaki, accompagnement de l'équipe du Chabada, soutien en communication et aide financière. Et c'est une opération menée conjointement par le Chabada et Angers Mag.
Avec la collaboration d'Angers Mag, c'est vrai.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette histoire ?
C'est une histoire d'échange avec le Chabada, voilà, de se demander comment on pouvait s'associer sur un projet qui a un peu de sens et pour eux et pour nous. Donc la proposition nous a été faite d'accompagner éditorialement, rédactionnellement, le suivi de ces 12 groupes qui ont été choisis par le Chabada. Je suis assez d'accord sur le thème espoir qu'il est tout à fait discutable, parce que quand on voit les groupes, je pense à Tilassine,
Girls Gift, Sainte-Carole, Pierre Lebas, qui sont quand même des noms qu'on a...
Ouais. Tout à fait. Alors bon, François Delaunay se défend de ça en disant que Pierre Lebas, on est sur un nouveau projet. Il a beau avoir été le chanteur de la Rouda, c'est un nouveau projet. Eagles Gift, ok, mais on en a beaucoup parlé l'an passé. Maintenant, de là à ce que Eagles Gift soit complètement assis professionnellement, c'est loin d'être le cas. Donc c'est vrai que les groupes qui ont été choisis, ils ont quand même tous en point commun d'avoir un potentiel, alors c'est le journaliste qui le dit avec toute la modestie, mais un potentiel évident qui a été confirmé, et puis d'aspirer à une professionnalisation. Donc ça va être le rôle du Chabada de travailler là-dessus, c'est pas le rôle d'Angemag. Nous, on est à notre place de journal et de magazine. Nous, ça nous intéresse de suivre ce que font ces 12 groupes, qui sont tous intéressants, on le prend un par un, il y a vraiment des bonnes choses. On est intéressé aussi, il ne faut pas s'en cacher, pour alimenter notre site web avec la vie de ces groupes-là, parce que la vie d'un groupe de musique actuelle aujourd'hui, c'est souvent la création de vidéos qui sont très intéressantes d'un point de vue d'Internet. C'est des histoires à raconter, des comptes rendus de concerts. Ça peut être
un journal de bord comme on a lu avec Daria,
et dont on reproduira très certainement le concept au cours de l'année avec ces groupes-là. Ça peut être suivre un groupe pendant 3-4 jours dans un studio d'enregistrement, sur la réalisation d'un clip. Nous, on n'a pas encore prédéfini comment on allait couvrir cette histoire-là, mais ça prendra ces formes-là qui nous plaisent bien, parce que voilà, on pense qu'on a ce rôle-là à jouer de médias, on est assez visible pour ces groupes, pour se faire mieux connaître aussi des Angevins.
Voilà donc un de ces espoirs qu'on va écouter tout de suite. Il s'appelle Pierre Lebas, c'est l'ancien chanteur de la Rouda, et ça s'appelle Longue Nuit.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Légèrement agacé par notre demande d'interview, Gaëtan Diran, le directeur départemental du Front National, suit la ligne du parti. Officiellement, on condamne ce genre de propos.
J'ai dit à votre collègue ce que j'avais à dire. Voilà, je condamne les propos. Les deux candidats seront convoqués par la commission de discipline. Et voilà, l'affaire est close. Point barre. J'ai rien d'autre à vous dire, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Dans la dérive actuelle de l'État vis-à-vis de la question de la place de l'islam en France, je ne me retrouve pas, je ne retrouve pas les valeurs de la République. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu rendre mon mandat.
Extrait des journaux de France 3 qui nous ont donc fait entendre Gaëtan Diran et Abdelrahman Azouzi pour deux actus dont nous allons parler tout de suite avec Yves Boiteau, rédacteur en chef d'Angers Mag. Alors après les espoirs Chabada Angers 2015, eux ce sont peut-être les espoirs 2015 pour le Front National. Allez savoir, Antoine Normand et Yves Vianney sont deux candidats FN pour les élections départementales qui ont lieu dans 10 jours. Et ils se sont fait connaître il y a 2 semaines avec des tweets super sympas du genre « Je demande solennellement aux Français d'origine étrangère de nous sauver une seconde fois en rentrant chez eux. » Ça, c'était signé Antoine Ormain, sauf que pour seule sanction, un conseil de discipline. Vous en avez trouvé 2 autres sur Twitter. Ils s'appellent Jean de Ghana et Arthur de Perruy. On peut lire un article consacré à ces tweets dans le nouveau numéro d'Angers Mag. Comment le FN peut-il à la fois tenter de lisser son image, de parler de dédiabolisation et tenir des propos comme on l'a entendu à l'instant de Gaëtan Diran qui dit « Bon, bah voilà, conseil de discipline, on n'en parle plus, quoi. »
Oui, ben voilà, c'est ça. Il y a une vraie contradiction qui n'est pas levée. Le Front National présente en Maine-et-Loire beaucoup de jeunes candidats, dont certains étaient sur la liste du FN au municipal. On a bien vu qu'ils ont puisé dans ce vivier-là avec un Front National, un FNJ qui est très dynamique, pour présenter des candidats, dont certains, alors Internet aidant, se sont fait plus que remarquer sur les réseaux sociaux et sur Internet par des propos qui sont tout sauf ceux d'un parti normalisé, soi-disant avec une éthique démocratique, respectueuse du vivre ensemble et compagnie. Quoi. Voilà, vous avez cité celui d'Antoine Ormain, Lys en fleurs, et je peux vous dire qu'on pourrait... Il a depuis, je crois, un peu bloqué son compte, il l'a privatisé, comme on dit, mais c'était vrai avant la campagne municipale, il y avait une collection de tweets assez ravageurs, donc qui pose une vraie contradiction que la réponse de Gaëtan Diran qu'on a entendue ne lève pas, clairement.
Alors, dans 10 jours, donc, aura lieu le premier tour des élections départementales. 21 binômes à élire pour 6 ans au conseil départemental, l'ancien conseil général. Un homme et une femme pour des compétences qui ne sont pas encore définies.
Qui sont en train d'être définitivement, j'allais dire, à l'Assemblée nationale. Je crois qu'aujourd'hui même, il y a un vote, mais dont on ne sait pas exactement quel sera le contour de ces compétences. Je sais plus si on avait l'occasion d'en parler ici. C'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème de mobilisation politique, de l'attention des citoyens pour une collectivité dont le rôle n'est pas clair. Et puis surtout, quelles que soient les décisions prises par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce champ des compétences qu'on va établir pour le Conseil général, on sait très bien que l'existence même du Conseil général continuera à être discutée et remise en cause par certains. C'est une question qui divise tous les partis politiques, alors peut-être à l'exception du Front National qui justement plaide pour le maintien des départements. Alors on serait curieux de savoir comment ils comptent les financer, parce qu'en fait le problème de ce millefeuille territorial, c'est qu'il est quand même gourmand en argent public, et que le but même de la suppression du département, c'était pas pour le plaisir, c'était aussi pour logiquement faire des économies. Alors d'aucuns vous diront qu'on ne fera pas d'économies ainsi, on verra bien, mais ça pose un vrai problème, et c'est l'une des interrogations d'ailleurs de cette élection, c'est pour qui, pourquoi vont voter les gens qui se déplaceront aux urnes les 22 et 29 mars. Comment vont-ils voter en connaissance de cause, c'est-à-dire sur le fond même de la chose politique pour laquelle ils sont convoqués? Ça, moi, c'est une grande interrogation. Parce que même quand on s'y intéresse de près, c'est compliqué. Alors, quand on s'y intéresse pas, mais sur quelle base peut-on voter? Donc, le risque, c'est tout simple, c'est qu'on soit encore sur un vote, malgré tout, d'étiquetage politique, de réaction, de protestation, ou sur un non-vote. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2011, donc dernière élection cantonale en date, en Maine-et-Loire, le taux d'abstention s'est élevé à 55%. Donc il y avait moins d'un électeur sur deux qui, en 2011, s'est déplacé voter pour ces cantonales. Est-ce que là, on a redécoupé les cantons, on essaie de redéfinir les compétences, est-ce qu'il y aura moins ou plus d'abstention qu'en 2011? Ça, c'est une autre vraie question. Et puis, bien entendu, je suis pas loin d'être le premier à le dire, lié à ça, il y a la question de l'impact de l'abstention sur le score du Front National, y compris en Maine-et-Loire. Il faut vraiment se poser la question, et on regardera de près les résultats au soir du 22 mars, mais aussi du 29, parce que le score du Front National en 2011 était à un niveau élevé, comme il ne l'avait jamais été. Pour la première fois, ils avaient réussi à placer un candidat au second tour. C'était dans le canton d'Allonne, près de Saumur, qui a disparu, qui s'est fondu dans celui aujourd'hui de Longuet. Et c'est pas un hasard, c'est là où se présente Gaëtan Diran, le patron du Front National de Maine-et-Loire, parce qu'il a bien compris que c'est là-bas qu'il avait un électorat potentiel. Et son score à lui, ça sera intéressant de le voir justement. Mais là, pour le coup, en tant que citoyen journaliste, il y a vraiment des questions à se poser sur la façon dont le calendrier électoral et le calendrier de réforme législative sur la compétence du Conseil général s'est mis en place. C'est quand même un problème.
On va passer au dernier sujet, Yves Boiteau, de ce sous-marin, en tout cas en ce qui concerne le débrief de l'actu. En France, tout est parti des attentats du 7 janvier à Charlie Hebdo, des frères Kouachi qui crient « Allahu Akbar ». Un mois plus tard, via une tribune dans Le Monde des Religions, Abdelrahman Azouzi, conseiller municipal et chef du service urologie au CHU d'Angers, annonçait sa démission du conseil, extrait de la tribune au hasard. « Devrais-je faire semblant d'accepter votre adhésion religieuse à une laïcité qui est devenue en réalité l'arme ultime et exclusive contre les musulmans de France ?» Voilà, une tribune qui a fait grand bruit. Est-ce que c'est cet épisode qui vous a décidé à vous pencher sur ce sujet si brûlant et épineux qu'est l'islam, qui fait la une du d'Angers Mag de mars et qui fait le dossier principal ?
Oui. Oui, même si c'est pas Abdelrahman Azouzi qui nous a convaincu qu'il fallait qu'on s'intéresse à ce sujet-là. On y serait venu tout ou tard parce qu'on sait que, un, il y a un horizon qui est le projet de construction d'une grande mosquée à Angers, dont il va bien falloir parler à un moment donné, y compris sur la place publique. Donc on y serait venu tôt ou tard. La tribune d'Abdelrahman Azouzi a précipité notre souhait de faire quelque chose parce qu'il intervient, vous l'avez dit, un mois après les attentats terroristes djihadistes de Paris et que dans sa tribune, il lance énormément de questions. Il met le doigt sur des vraies difficultés, de vrais problèmes et on s'est dit que c'était le moment de faire un premier point sur, d'une part, qu'est-ce que c'était aujourd'hui que l'organisation des communautés musulmanes à Angers, comment ces communautés-là se positionnaient par rapport à la question de l'organisation du culte. Cette question-là se pose au niveau français. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a relancé ce chantier qui avait été ouvert par Nicolas Sarkozy il y a 10 jours, en se demandant, enfin en appelant quelque part non pas la création, parce qu'il existe déjà le Conseil français du culte musulman, mais en tout cas au renforcement d'une organisation du culte musulman en France, et en posant la question aussi de la formation des imams. Donc oui, c'était le bon moment pour ouvrir ce débat qu'on place beaucoup plus volontiers sous le tapis que sur la table. Il y a une forme, malgré tout, de tabou autour de cette question de la relation entre la France et ses musulmans, ou entre la ville et ses musulmans. C'est un sujet qui n'est pas simple, par essence. Il y a des crispations. Alors, elles sont d'autant plus vives après les événements que l'on a connus. Donc oui, Abdelrahman Azouzi, quelque part, nous a encouragés à faire ce travail-là. C'est pas lui qui nous la souffle à l'oreille non plus, hein, qu'on soit bien d'accord.
Alors la première chose qu'on apprend évidemment dans ce dossier, vous venez de le dire, c'est que l'islam à Angers, comme en France, est une organisation très éclatée. Il y a le regroupement historique via l'association des musulmans d'Angers qui a 34 ans d'existence, cette association-là. Il y a l'association des musulmans de la Roseraie qui est issue de cette première association historique. Il y a l'union des musulmans d'Angers, il y en a beaucoup d'autres, et vous soulignez également que l'autre fait important, c'est que l'organisation de l'islam à Angers se fait aussi en fonction du pays d'origine et de la langue.
Oui. Bah, assez naturellement, quand on y pense, il suffit de s'imaginer dans une mosquée, il y a 30 ans, avec des Marocains, qui étaient les premiers migrants et les principaux migrants arrivés sur Angers, des Turcs, qui ne parlent pas la même langue, et il y a un imam, il en parle forcément une. Donc là, déjà, il y a une difficulté à s'entendre. Il y a la question de la langue qui est forcément une difficulté pour l'organisation du culte et celle de la prière, du prêche. Et puis, bien évidemment, les communautés qui arrivent sur Angers viennent avec leur culture, leur approche de l'islam qui n'est pas forcément la même selon leurs origines, et leur demander à ces gens-là effectivement de travailler autour d'une organisation commune, alors qu'ils sont là que depuis 30 ans, bah évidemment que c'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire, là pour le coup, je ne leur fais pas le reproche, il n'y a aucun reproche derrière ça, c'est un constat que forcément c'est extrêmement difficile de faire discuter des musulmans d'origine différente. Alors voilà, le problème existe à Angers, je pense qu'il n'existe pas qu'à Angers. Pourquoi les États, du coup, sont présents? Parce que je reviens à votre question. L'État marocain, il est présent de fait parce que ses ressortissants étaient très présents sur Angers. Voilà. Et que, on l'explique dans le dossier, à l'heure de se choisir un nouvel imam, l'Association des musulmans d'Angers a joué, on pourrait dire, la carte de la sécurité. C'est quoi la carte de la sécurité? C'est aller chercher dans un institut de formation d'imam au Maroc, chapeauté par l'État marocain, par Mohamed VI, un imam dont on a la garantie qu'il prêche un islam modéré et non pas un salafiste ou non pas quelqu'un qui s'autoproclame imam avec une prêche qui pourrait revêtir un caractère politique. Donc ça a été la carte de la sécurité, mais cette carte-là, et Abdelrahman Ezzouzi est le premier à le faire, est contestée par une partie des musulmans d'Angers qui estiment que c'est pas aux États, ce n'est pas aux États, alors, ni à l'État français, ni aux États étrangers, de décider de l'organisation du culte. Donc là, on voit bien que le débat central actuellement, c'est celui-ci. Et il va être d'autant plus compliqué que, qu'une mosquée va voir le jour, donc censée être le lieu qui rassemblera les musulmans de la ville. Donc,
est-ce que c'est possible justement que cette nouvelle mosquée qui va voir le jour, donc sur les hauts de Saint-Aubin, à côté de l'Ézéo, rassemble finalement et organise ou pas du tout?
Et c'est un pari. C'est un pari religieux, j'allais dire qu'il était presque politique, parce que dans le positionnement même des pouvoirs publics, et quand bien même ils n'ont pas à être associés à la création d'un lieu de culte, ils sont obligés quand même de se pencher un petit peu sur la question. Parce que oui, est-ce qu'une mosquée pourra incarner quelque part la capacité des musulmans à se regrouper autour de l'organisation d'un culte justement que l'État français appelle de ses vœux? Ou est-ce que c'est pas ça la bonne direction? Et est-ce que c'est celle que défend plutôt Abdelrahman Ezzouzi, mais pas seulement, l'association culturelle des musulmans de la Roseraie, c'est un peu ça, celle de Trélazé, c'est un peu ça aussi, donc plutôt de lieux de prière plus modestes qui verraient le jour dans les quartiers. Il y a une question financière derrière qu'il ne faut pas occulter, parce que le projet de mosquée, jusqu'à nouvel ordre, il n'est pas financé. Des travaux de terrassement ont été faits, et c'est pas un hasard, juste avant la clôture du délai du permis de construire, pour pouvoir prolonger ce permis de construire, sinon il tombait de lui-même. Maintenant, il faut élever les murs, il faut créer la mosquée, et à ce jour, ils ne s'en sont pas cachés, même s'ils ont bon espoir que, voyant les travaux commencer à se faire, les dons affluent, mais l'AMA, l'Association des musulmans d'Angers, n'a pas les moyens aujourd'hui à l'heure où on se parle, de réaliser cette mosquée-là.
En tout cas, c'est un dossier très intéressant qu'on n'a pas le temps d'éplucher davantage ici, malheureusement. Mais je conseille aux auditeurs d'aller y jeter un coup d'œil. On va finir, Yves Boiteau, avec un petit mea culpa d'Angers Mag. Est-ce qu'il y a un dossier que vous auriez aimé traiter, un sujet que vous auriez aimé traiter autrement? Est-ce que... Voilà, un petit mea culpa
dans ce magazine-là.
Ce mois-ci, oui, ces dernières semaines, ou pas forcément dans le magazine, mais même sur le site internet.
Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, je suis désolé.
Tout va bien, alors.
Non, tout va pas bien. Non, le mea culpa, c'est de pas pouvoir faire les choses encore plus complètement. Sur ce dossier-là de l'islam, quand on le fait, quand on le publie, on est parfaitement conscient qu'il est incomplet, donc, et qu'on aurait pu traiter d'autres angles, parce qu'il y a énormément de questions qui se posent derrière. Donc mea culpa, peut-être, de pas faire un dossier qui soit encore plus complet, voilà. Petit mea culpa, peut-être anecdotique, dans nos brèves d'actualité du mois, par rapport à Jean-Luc Rotureau, qu'on a épinglé très facilement, je le reconnais bien volontiers, parce que c'est quelqu'un qu'on aime plutôt bien, mais voilà, on a fait comme les autres, on a repéré qu'il avait été tiré au sort parmi les représentants au nouveau conseil de quartier, donc on a trouvé ça assez drôle pour quelqu'un qui a été battu au municipal, qui n'est plus conseiller, de voir qu'il revient dans la sphère publique. Alors, il est aussi candidat au cantonal, je l'oublie pas, mais il revient dans la sphère publique par le biais d'un tirage au sort parfaitement, en plus, loyal. Voilà. Donc, il a parfaitement le droit d'aller au conseil de quartier, mais on s'est quand même amusé de cela, quoi.
Et puis, pour finir, puisqu'il faut se faire du bien aussi, un petit petite auto-congratulation, voilà, lancez-vous des fleurs. Qu'est-ce qu'il faut aller lire sur le site d'Angers-Mag absolument ou,
dès aujourd'hui, il faut aller lire le compte-rendu du conseil d'agglomération d'Angers de Sébastien Rochard, qui est très complet et qui vous permettra, si vous vous y intéressez de près ou de loin, de rentrer dans l'arène de ce que c'est qu'un conseil d'agglo, où se décident des choses importantes, comme l'éventuelle construction d'une deuxième ligne de tramway, comme l'éventuelle transformation de l'actuelle communauté d'agglo en communauté urbaine. Et son compte-rendu permet à la fois de voir dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les élus, de montrer que derrière les sourires de façade, il y a de vraies divergences. Et puis à la fois, comme il est très pédagogique et très bien expliqué, vous serez au parfum de la façon dont évolue la chose publique sur Angers. Voilà, une petite fleur.
C'est noté. Merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin.
Merci.
D'entendre Elvis Flaming Star avec Pond.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est mardi, il est 19h37, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Ce matin, Jean-François Aquili recevait Marion Maréchal Le Pen sur France Info dans le cadre des élections départementales. La députée Front National ne se présente pas elle-même aux élections, mais elle est venue soutenir ses candidats.
Et Marion Maréchal Le Pen estime que son parti est tout à fait respectable, même lorsque Jean-François Aquili évoque le florilège des sorties racistes, antisémites ou encore homophobes.
Écoutez, florilège, nous avons 7648 candidats, si ma mémoire est bonne, et la presse, avec tout le zèle qu'on lui connaît, et en particulier Libération, a trouvé 11 candidats. Ça fait 0,1% de problème. Ça fait quand même 99,99% d'absence de problème. Donc moi, je veux bien qu'on soit dans une totale malhonnêteté intellectuelle, mais il faut quand même remettre les choses à leur place.
Alors, les proportions sont-elles si négligeables que ça, Pierre-Antoine ?
Eh bien, rappelons déjà à Marion Maréchal Le Pen que 100 moins 0,1, ça ne fait pas 99,99%. 99, mais 99,9, un détail comme aurait dit son grand-père. Maintenant, sur le fond, le Front National présente plus de 7600 candidats dans 93% des cantons, c'est vrai, mais contrairement à ce qu'annonce la députée du Front National, Libération n'épingle pas 11, mais 22 candidats FN, Ciel ou Rassemblement Bleu Marine. À ces 22 candidats, il faut rajouter ceux présents sur la liste publiée par le Parti communiste et le Front de gauche la semaine dernière. Lorsque l'on enlève les doublons, on arrive à 36 candidats FN au départemental qui ont tenu des propos condamnables, mais aussi carrément complotistes.
Et parmi ces candidats, on retrouve des Angevins.
Oui, ils sont nombre de deux. Le premier s'appelle Antoine Hormin, et il est candidat du canton d'Angers 3, qui comprend entre autres Savenières, Béhuard, Beaucouzet et une partie de l'ouest d'Angers. Ce candidat a pu s'illustrer sur Twitter où il écrit « Je demande solennellement aux Français d'origine étrangère de nous sauver une seconde fois en rentrant chez eux, hashtag indigène ». Autre candidat, Yves Vianney, candidat du canton d'Angers 5, c'est-à-dire de Briolet, Écouflant ou encore une partie du nord d'Angers. Et encore une fois, c'est sur Twitter qu'il dérape le candidat Front National en utilisant le qualificatif de « bougnoule ». C'est fou comme ils sont tout en finesse au Front National.
Le FN, qui par la voix de Marion Maréchal Le Pen, affirme avoir sanctionné ses candidats.
Le Front National a en effet sanctionné certains de ses candidats, comme Guillaume Jambard, candidat en Gironde, après qu'il ait annoncé adhérer à la devise du maréchal Pétain « Travail, famille, patrie », ou encore Alexandre Larionov en Aveyron, qui a appelé à la mort des Juifs, tout simplement, sur Twitter. Ces deux candidats ont été exclus dès que la polémique a éclaté. Concernant nos deux candidats en juin, par contre, aucune décision n'a été prise pour l'instant, même si Gaëtan Diran, un candidat malheureux aux dernières municipales et secrétaire du FN 49, a annoncé vouloir les sanctionner. La volonté, c'est bien, l'action, c'est encore mieux. Enfin, pour conclure avec le Front National, rappelons que France 2 a révélé jeudi que 111 candidats du Front National pour les départementales de 2015 sont âgés de plus de 80 ans. On comprend mieux pourquoi certains pensent qu'il faut revenir au Front. Ils n'ont toujours pas compris comment marchait l'euro.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Mercredi 18 mars, dans 8 jours donc, ce sont 7 étudiants de l'UCO qui vont mobiliser vos 5 sens lors de la Nuit des Sens à Saint-Barthélemy d'Anjou, un projet étudiant mené dans le cadre d'un cours d'événementiel au sein de la licence 3 Infocom à la Cato. Bonjour Fiona.
Bonjour.
Tu es trésorière et chargée des relations avec les partenaires au sein de cet asso qui s'appelle Cultu Art. Et en face de toi, bonjour Maïna.
Bonjour.
Toi, tu es responsable de la communication. Comment ça va, vous deux, à 8 jours de l'événement ?
Bah, ça approche, donc à la fois, on est à la fois un peu excités parce qu'on est content que ça arrive, puis ça, on appréhende aussi un petit peu, c'est normal. Il y a encore les derniers réglages à faire et ça devrait être...
Alors, est-ce que vous pouvez situer pour les auditeurs dans quel cadre est-ce que votre projet est né ? Vous êtes en L3 Information Communication à la Cato et vous faites partie d'un bloc qui s'appelle le bloc événementiel, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, dans le cadre de nos études, pour la validation de notre étude, on devait monter une association et créer un événement. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé ça en groupe.
Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet ?
Je dirais, on s'est mis en groupe début octobre. Donc, ouais, c'est depuis début octobre, on a dû définir quel événement on faisait, donc ça prend aussi un certain temps, et après ça se concrétise, puis voilà.
Alors justement, la définition du projet, le choix des cinq sens, ce thème-là, comment ça s'est fait ? Comment ça vous est venu à l'esprit ?
Alors à la base, on était parti plus d'une exposition dans le noir, donc chose totalement différente, et puis le projet a évolué, et puis au début, on voulait vraiment sensibiliser que la vue comme sens. Puis petit à petit, ça a évolué dans nos esprits et on s'est dit pourquoi pas mobiliser les cinq sens.
Donc l'idée, c'est de réunir 50 personnes à la Romainerie à Saint-Barthélemy d'Anjou afin de leur faire redécouvrir leurs sens via 5 ateliers. On va essayer de les décrire un petit peu. On va commencer par Louis parce qu'on est à la radio. En quoi ça va consister cet atelier, Maïna ?
Alors en fait, ça va être avec des sonorités du quotidien. Donc c'est Laurent Schmitter, une auteure, pédagogue et artiste, qui va essayer de revisiter les sens autour des sonorités du quotidien, essayer de voir différemment ce qu'on entend tous les jours. Et donc pour avoir une immersion un peu dans l'imaginaire et transformer la perception sensorielle de Louis.
On passe à la vue.
Alors la vue, c'est deux étudiantes de la Cato aussi, en L3 art plastique, qui vont en fait qui travaillent autour des effets visuels. Donc par exemple, pour donner un exemple, donc ce sera Pascaline Fradet et Marjorie Chalon. Et par exemple, Pascaline, elle a imprimé des photos en 3D et elle va donner des lunettes 3D du coup aux gens sur place pour essayer de leur montrer le principe, etc. Marjorie ne nous a pas encore décrit ce qu'elle allait faire, mais apparemment c'est sur un principe de miroir. Enfin, des choses comme ça. Donc le but, c'est d'éveiller la surprise, en fait, et de stimuler le sens de la vue.
On passe à l'odorat. Pour l'atelier odorat, Maïna, qu'est-ce qui est prévu ?
Pour l'atelier odorat, on fait appel à Monsieur Laurent Montpoint, donc, qui est créateur de thé sur
sur Angers. Donc il a monté l'Agosta. Et du coup, il va raconter un peu l'histoire de la ville d'Angers autour du thé, justement, et essayer de stimuler l'odorat avec différentes sortes de thé. Et tout en racontant une histoire entre la royauté française et britannique. Donc tout autour d'une histoire et en même temps en mêlant les odeurs.
Il y a un sens qui m'intéresse, que vous allez m'expliquer en quoi ça va consister, cet atelier sur le toucher.
Alors sur le toucher, en fait, on a fait appel à une association qui s'appelle Élémentaire, qui est une toute jeune association, et qui en fait fait des énormes mandalas à partir de matériaux. Donc du coup, l'idée en fait, c'est de créer une œuvre collaborative avec tous les invités qui vont eux-mêmes créer le mandala. Ils vont avoir plusieurs matières, matériaux à leur disposition, et ils vont devoir les disposer eux-mêmes, donc encadrés par Madame Dignan. Et ils vont devoir, créer eux-mêmes l'œuvre. Et à la fin de la soirée, normalement, ça donnera quelque chose d'assez chouette.
Et on termine par le goût.
Alors, pour le goût, on a fait appel à Vigne-en-Ville d'Angers. Donc, c'est un collectif de passionnés de la viticulture. Et du coup, qui vont nous proposer une dégustation de vin, donc des œnologues et toutes les caractéristiques du vin angevin. Donc, pour connaître et s'expérimenter un peu sur le sujet.
Et donc tous ces ateliers seront conclus par un dîner à la Romainerie.
C'est ça. Donc un dîner concocté par le traiteur Bombétan, qui du coup va nous préparer un repas entre guillemets gastronomique. Donc je ne sais plus les plats précisément, mais
ça va être la surprise.
C'est ça.
Ça fait pas partie de l'atelier goût.
Non, parce qu'en fait, au final, un repas, c'est pas seulement le goût. D'un sens, il y a aussi rien que la vue sur la présentation. Il y a aussi l'odorat, évidemment. Donc du coup, ça permettait, en fait, c'était une sorte de conclusion qui permettait de vraiment...
D'allier
tous les sens, en fait, c'est ça. Donc ça faisait un bon bilan, en fait, de la soirée.
Alors le défi ici, c'est de créer un événement pour un public dont vous faites vous-même pas partie, puisqu'il s'agit, vous visez, je crois, les 25-50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre à la place d'un public auquel on n'appartient pas pour créer un événement qui est susceptible de leur plaire?
Bah c'est vrai que ça, c'est le défi, justement, parce qu'on est obligé de sortir de nos petits réseaux étudiants, sachant qu'en plus, si on n'habite pas Angers, on connaît pas forcément... des entre guillemets adultes,
des grands,
c'est ça. Donc du coup, ça faut vraiment aller vers les gens. Donc c'est se mettre un peu en danger aussi, mais c'est bien. Enfin, ça permet de se faire un petit défi et de sortir. Enfin, on sait que c'est pas nos amis qui vont venir. On a vraiment des gens à convaincre, en fait.
Et alors justement, là, 8 jours de l'événement, vous avez donc 50 places d'ouvertes pour cette nuit d'essence. Vous en êtes où dans les réservations?
Alors pour l'instant, on est à 25 personnes et du coup, on espère en toucher plus dans les prochains jours. Donc notre objectif, c'est 50 personnes et vraiment, on compte sur ces 50 personnes pour venir.
On recevait la semaine dernière l'association Macadam qui, elle aussi, a été créée dans le cadre de ce bloc événementiel à l'Université catholique de l'Ouest. Donc Macadam qui venait présenter son événement sur place et emporté qui s'est déroulé vendredi dernier. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'association Macadam. C'est quoi la plus grosse galère que vous avez rencontrée jusqu'ici, les plus grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant...
La plus grosse galère, je crois que c'était de trouver tous les intervenants. C'est-à-dire, enfin, au final, non, c'était de trouver surtout l'intervenant sur Louis. Bizarrement, on a eu beaucoup de mal alors qu'on pensait à la base que ça allait être simple. Parce qu'on s'est dit, on trouve un petit musicien, il fait quelque chose de sympa, mais à la fois on voulait quelque chose d'assez surprenant, donc c'était difficile. Il y en a beaucoup qui nous demandaient des prestations financières qui étaient vraiment au-delà de nos moyens. Donc on a dû vraiment éplucher tous les annuaires d'Angers pour essayer de trouver. Et puis au final, c'est justement en parlant avec l'association Vigne en Ville et en signant le partenariat qu'ils nous ont donné le contact de quelqu'un qui connaissait. Enfin, ça marche beaucoup en réseau. Du coup, on l'a eu au final, mais c'était on a eu très peur parce qu'au final, on a dû signer la convention la semaine dernière, quoi, pour vous dire.
Effectivement.
Donc du coup, voilà, c'était plus ça. Enfin, moi, en tout cas, sur mon ressenti après Maïna, je sais pas si t'as...
La recherche de partenaires aussi financiers, par exemple, qui était compliquée parce qu'on a un statut d'étudiant, donc c'est pas toujours facile d'avoir une légitimité. Donc ça a été aussi compliqué. Être crédible pendant les rendez-vous, bien expliquer son projet. Donc justement, je trouve que par rapport à nos études, c'est aussi très intéressant.
Alors, il reste donc 25 places à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour réserver? Alors, c'est un événement qui est payant. Il faut compter combien pour la soirée?
Du coup, ça fait 25,50 la soirée.
Et comment est-ce qu'on peut faire pour réserver? Jusqu'à quand on peut réserver les infos pratiques? C'est l'heure des infos pratiques, quoi.
Alors, on peut réserver jusqu'à lundi. C'est sur le site Hello Asso, en tapant Culture Art, et on peut réserver nos billets.
Culture Art, sur Google, ça fonctionne? C'est bon, on trouve tout de suite?
Normalement, oui.
Ok, c'est
ou noté. Ou la nuit des sens, Culture Art, la nuit des sens, normalement, là, vous êtes sûr d'être trouvé.
C'est noté. Bah, merci beaucoup, Maïna et Fiona, d'avoir été dans le sous-marin. Puis bon courage pour cette dernière ligne droite et bonne nuit des sens.
Merci. Merci.
C'était Mac DeMarco avec Letter Go.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perne de ce soir, ça se passe au Théâtre du Champ de Bataille. À l'occasion du Printemps des Poètes, la structure propose une soirée lecture et musique avec l'association du Cercle Angevin de Poésie. L'entrée est libre. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Hier soir, c'était la galette partie chez Home Wax. Étienne a tendu le micro à Yann Art Lemonnier d'Ego Twister. Il évoque la prochaine soirée du label au Bar du Quai.
C'est la combienième sortie, Yann, gratuit?
Celui-là, c'est le TW31.
C'est beau.
Voilà, 45 tours compris, des trucs très limités aussi. C'est pas 31 albums.
Et donc là, du coup, là, c'est pressé à...
Combien... 300 exemplaires. Et okay. Comme on l'a coproduit avec Kitty Bong, il y a aussi une version CD. Moi, d'habitude, je fais pas de version CD.
D'accord.
Pour Antoine, on fait l'exception à chaque fois. Il y a une version cassette aussi à 50 exemplaires.
Oui.
Hyper collector,
ce que
avec
tu
fanzine,
disais.
Poster sérigraphié, qui est sur un des trois labels qui coproduit, qui s'appelle les Pour Records.
Et ben vous avez, il y a que l'embarras du choix. Et du coup, deuxième choix avec donc un des autres groupes qu'on pourra retrouver ouais. Vendredi au Bar du Quai.
Donc le deuxième artiste que j'invite, c'est Seal of Quality, qui est un gars de Rouen, qui est aussi d'ailleurs guitariste dans Room 204, puisqu'on parle de Kitty Bong.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est le lien aussi avec Kitty Bong, qui a sorti son premier EP, c'est un 7 titres, je crois, oui, en 10 pouces. Donc Seagull of Quality, qui est un mélange de rock, de punk et de cheap music. Voilà, il est avec trois Game Boy, une guitare, du vocoder.
Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Ciné Quanon sur Radio Campus Angers. Et je salue Jean Hitchcock.
Salut.
De quoi vous allez nous parler ce soir, bande
de cinéphiles ? Ce soir, on va parler de super-héros. On va se demander si on serait pas en train d'atteindre l'overdose de super-héros. Et évidemment, comme d'habitude, il y aura de l'action et du sexe.
Ouais, comme d'habitude, comme il y a deux semaines. C'est comme... ça, dans ce donjon sadomasochiste.
Exactement.
Très bien, et bien à tout à l'heure. Merci Jean Hitchcock. Merci également à Pierre-Antoine et à Thomas. Merci à Raoul pour la réalisation. Nous, on se retrouve demain à 19h. On recevra l'association Andy Men. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.